Bien, bonsoir, on va commencer. Pour la dernière conférence de ce cycle des conférences publiques de l'ISM, qui portait donc cette année sur minorité en islam, islam en minorité, et pour cette dernière séance, j'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Lagrange, qui est professeur de langue et de littérature arabe à l'université Paris-Sorbonne, anciennement Paris 4. Les travaux de Frédéric Lagrange se situent à la croisée des études culturelles, littéraires et aussi historiques, puisque il traite des questions de représentation et de performance du genre dans la littérature en langue arabe d'époque moderne et médiévale, enfin médiévale et moderne, voire contemporaine, en partant de l'hypothèse que ces manifestations dans la littérature expriment, sont l'expression d'une réalité de dynamique, d'interrogation qui traverse les sociétés arabes, musulmanes, arabophones, qui les traversent au cours du temps. Il est l'auteur d'un ouvrage intitulé Islam d'interdit et Islam de jouissance dans la collection L'Islam en débat de chez Théraèse, paru en 2005, où il s'interroge sur les représentations concurrentes, Islam d'interdit, Islam de jouissance, représentations concurrentes dans le discours public à propos de la sexualité dans les mondes, dans les sociétés musulmanes, et il le fait à partir à travers les textes, les sources et la littérature. Il achève actuellement la rédaction et la mise au point d'un ouvrage, une anthologie des textes médiévaux intitulée Visage de la débauche, en même temps qu'il mène des études sur les productions culturelles du monde arabophone contemporain, saisies sous l'angle du genre et de la question du genre. Donc je le laisse pour clore ce cycle de conférences et vous remercie de votre présence.
Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, le fait que cette communication soit proposée dans le cadre d'un cycle qui s'appelle Minorité en islam, islam en minorité, oriente forcément la réception de mon propos et commande quelques précautions épistémologiques dans le cadre d'une série de cinq remarques qui ne seront pas, ces remarques, l'introduction de ma communication, mais en fait en constitueront la principale partie. Et selon le temps qui nous restera, je commenterai un ou deux textes, un texte classique et un texte contemporain en conclusion. Certaines de mes remarques seront des évidences, pour lesquelles je m'excuse d'avance, en ce qui concerne ceux qui sont intéressés par les études sur le genre ou travaillent dans ce domaine comme chercheurs. Mais je considère l'hypothèse où ce ne serait pas le cas de tous parmi nous et en déduis que des distinctions demandent à être faites afin de préciser, en fin de cette grande première partie, où je me situe dans un vaste champ, dans ce vaste champ dont il est question. La première remarque que je ferai, c'est que l'étiquette générale donc de ce cycle de conférences publiques traite d'une part de minorité et d'autre part lie les termes minorité et islam. Pour qu'il y ait minorité, il faut qu'il y ait majorité et il faut qu'il y ait sentiment dans un groupe humain de ne pas appartenir à cette majorité, de se sentir une communauté de culture ou de destin du fait de cette situation minoritaire liée à un trait de leur être et d'être inversement perçu comme formant un groupe de la partie de la population se définissant comme majoritaire. Il est là donc question de perception identitaire, c'est-à-dire que le trait discriminant de cette population sera reçu intérieurement et extérieurement comme un élément ontologique, constituant un élément central ou périphérique de l'identité, déterminant une idée de soi et de l'autre, et de ce fait, des privilèges ou des vexations, des avantages ou des désavantages dans des situations données d'interaction dans la société. On supposera que la raison pour laquelle je suis choisi pour cette conférence dans ce cycle est donc que la minorité en question serait les homosexuels et la majorité serait les hétérosexuels. Le trait discriminant définitoire d'une supposée identité homosexuelle n'est donc pas un fait physique, comme un groupe ethnique, par exemple, n'est pas idéologique, enfin, dans la mesure cependant où l'appartenance à une communauté de croyants, pour parler de la foi religieuse, serait réellement un fait d'adhésion, ou une adhésion culturellement construite par le hasard de la naissance dans un milieu héritier de cette croyance. Mais en l'occurrence, là, le trait discriminant est une préférence sexuelle. Le point commun avec le premier trait discriminant, celui qui a trait au physique, c'est qu'il ne dépend pas de la volonté du sujet, qu'il n'est pas un choix. Le point commun avec le second, l'appartenance à une communauté religieuse, par exemple, est que, bien que le sujet n'ait pas de prise sur sa préférence sexuelle, la constituer en trait identitaire, en revanche, elle est partiellement un choix, partiellement parce que tout autant culturellement construit que justement l'appartenance religieuse. Or, ce qui doit être pris en considération en ce qui concerne notre sujet, c'est que l'invention de l'homosexualité dans les sociétés occidentales, pour reprendre la célèbre formule de Foucault, et partant l'invention de l'homosexuel, est un phénomène récent, incomplètement réalisé, se heurtant à des résistances notables de la part des sujets minoritaires comme des majoritaires. Tout comme, du reste, l'est la naturalisation de l'hétérosexualité comme supposée norme du désir humain. L'idée que la préférence sexuelle serait constitutive d'une identité, puis, dans une seconde phase, que cette identité détermine un sentiment d'appartenance communautaire et donc à une minorité susceptible d'exiger des droits, ceci est une des transformations majeures des sociétés contemporaines. Dans le monde arabe, qui est intimement lié au discours et représentations dominantes en Europe et en Amérique, depuis l'âge colonial. Plus intensément encore dans le monde globalisé post-colonial où nous sommes, dans le monde arabe donc, cette conception d'une identité découlant des goûts et pratiques sexuelles est évidemment tout aussi récente qu'elle l'est en Occident. Et elle a une autre particularité, c'est la particularité d'être exogène et clairement ressentie comme telle. Cela dit, la mesure dans laquelle cette conception a été reçue en Europe comme exogène, à savoir américaine, est importée, serait un autre sujet, mais qui semble actuellement dépassé, même si ce n'était pas le cas il y a encore une vingtaine d'années, dans la mesure où cette épistémé est maintenant dominante. Mais la relation post-coloniale à l'Occident vient parasiter dans le monde arabe l'émergence pourtant effective d'un sentiment identitaire homosexuel. D'autre part, cette série de conférences se définit un cadre culturel d'études, celle des minorités en lien avec l'islam, que ce soit islam en tant que culture avec un I majuscule ou en tant que système de croyances religieuses avec un I minuscule et non l'arabité, qui, elle, cadre ponctuellement ma propre intervention. Sur ce plan, la question d'une singularité et d'une homogénéité des sociétés se définissant comme musulmanes avec l'orientation du désir, cette question est légitime, mais la réponse serait fort complexe. En tout état de cause, les deux champs arabes et islamiques sont connexes pour des raisons historiques, linguistiques, sociales. Mais je préciserai que ce n'est que des sociétés arabophones que je traiterai ici, quand bien même la variable islam est susceptible d'être évoquée par moi et qu'elle est justement utilisée par les hommes et les femmes concernés. Pour un chercheur en sciences sociales, par exemple, toute phrase qui commencerait par « dans l'islam, trois petits points », chez les musulmans, trois petits points, toute phrase de ce type est nulle et non avenue, car elle suppose une vérité éternelle qui transcendrait les espaces, les périodes, les contingences, les individualités, et confondrait le noyau islamique des textes et des interprétations canoniques avec les sociétés qui connaissent un écart entre leurs valeurs et la loi. Donc, du point de vue du chercheur, dans l'islam est un début de phrase, quelle que soit la suite, qui ne veut rien dire. Mais pour les individus, cette prégnance de la question religieuse, elle, est une réalité. Et le sentiment d'une incompatibilité entre deux éléments identitaires, que seraient la foi et l'homosexualité, deviendra d'autant plus violente si justement ce ne sont plus simplement des actes transgressifs que le croyant commet en espérant le pardon divin ou sans même se poser la question, selon le principe de « Idha bulitum fastatiru », si vous êtes affecté, sous-entendu, d'un vice, protégez-vous du voile de Dieu, ne le révélez pas aux yeux de tous. Mais à partir du moment où une partie de l'être serait l'homosexualité et qu'elle serait tout aussi définitoire que l'identité musulmane ou d'ailleurs chrétienne, là, le conflit devient d'autant plus violent. Deuxième remarque, vous voyez que mes remarques sont assez longues pour chacune. Deuxième remarque, deux axes dialectiques doivent être croisés pour traiter des questions de sexualité entre personnes de même sexe dans les sociétés prémodernes et les sociétés modernes et postmodernes, si l'on veut adopter une perspective de comparaison. Le premier est l'axe acte contre identité. Le deuxième sera l'axe acte contre genre du partenaire. Donc, occupons-nous pour cette deuxième remarque du premier axe. Axe, acte d'un côté, identité de l'autre. Il nous ramène aux remarques précédentes et il interroge le lien entre le fait pour un individu d'avoir des rapports sexuels avec des partenaires qu'il considère comme étant de même sexe, ce qui en soi est déjà problématique. C'est-à-dire que, est-ce que pour l'homme mûr, l'adolescent est réellement de même genre que lui, de même sexe biologique sans aucun doute? Mais est-il exactement du même genre ou est-il un pré-homme est une question qui se pose. Et donc, le fait d'avoir des rapports sexuels avec des personnes, avec des partenaires qu'on admet être de même sexe et qu'on perçoit ou non comme étant de même genre, de sexe social. Et d'autre part, se considérer de ce fait comme susceptible d'être nommé et le fait que ce nom soit constitutif de son être. Or, l'individu est susceptible d'avoir de grandes résistances à être ainsi nommé et catégorisé. Les chercheurs et les militants, les médecins qui travaillent sur la prévention contre les maladies sexuellement transmissibles et notamment le sida, utilisent par convention une étiquette qui évite de nommer, qui est la plus large possible. On parle de « men who have sex with men », par exemple, « hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes », puisque les individus ne reconnaissent pas nécessairement, ne se reconnaissent pas nécessairement comme homosexuels pour des raisons diverses, parce que il peut s'agir de pratiques occasionnelles, il peut s'agir de pratiques liées à une nécessité financière mais ne correspondant pas à une préférence, ou ne correspondant pas à une préférence exclusive, ou parce que ces pratiques sont non exclusives d'autres pratiques entrant dans le cadre hétérosexuel, ou parce qu'il y a refus d'une étiquette socialement stigmatisante, ou éventuellement parce qu'il y aurait refus d'une étiquette plaçant sous la même dénomination des actes que le sujet perçoit comme de nature différente, selon ce que nous verrons dans la remarque suivante,
le type de rôle qui est pratiqué avec le partenaire. Or, cette question de la désignation est essentielle. La mise à distance de l'équation acte-identité a été théorisée par les chercheurs en sciences sociales et elle s'est généralisée chez les personnels associatifs en Occident, dans une phase plus récente dans le monde arabe. Un exemple, ce livret utilisé fait au Liban en 2016 pour expliquer aux séropositifs les conduites à risque, le terme qui est utilisé en arabe dans cette brochure est كتيب حول الصحة الجنسية للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال. Donc, livret à propos de la santé sexuelle pour ceux qui vivent avec le virus du HIV pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. C'est une précaution méthodologique nécessaire pour traiter des sociétés actuelles, mais c'est une précaution méthodologique encore plus nécessaire pour traiter des sociétés pré-modernes. De ce fait, dans les publications scientifiques, le mot homosexualité pour les sociétés médiévales jusqu'au XIXe siècle est utilisé par simplification à défaut d'un terme neutre non essentialisant. La première conséquence de cette distinction qui est nécessaire est que dans les sociétés prémodernes, monde de l'islam inclus, la religion, que ce soit le christianisme, le judaïsme ou l'islam, la religion n'a strictement rien à dire de l'homosexualité. La religion ne tient un discours que sur des actes homosexuels. Le fiqh, la jurisprudence islamique classique, condamne la pénétration anale entre hommes. La pénétration anale hétérosexuelle dans le cadre matrimonial licite est sujet de désaccord entre écoles. Mais elle la condamne, cette pénétration anale en homme, entre hommes, au même titre que la pénétration vaginale hétérosexuelle illicite, désignée, elle, par le terme zina, qui recouvre les deux notions en français de adultère et fornication. Et la pensée juridique dresse des parallèles entre les deux. D'autres actes sexuels non pénétratifs sont également condamnés avec des châtiments moindres que ceux qui impliquent pénétration. Par contre, la mise en action de ces condamnations est extrêmement malaisée car elle exige un système complexe de témoignages au point que cette législation semble faite pour être inapplicable et finalement déléguer la punition des transgressions sexuelles à la sphère familiale, tribale ou communautaire d'une part, et d'autre part à l'appréciation arbitraire du prince, ce que l'on appelle tazir. Cette jurisprudence, bien que non appliquée, constitue néanmoins la base du droit. Les États arabes modernes ont des législations mêlant des principes classiques du fiqh, selon les écoles dominantes dans une région donnée, avec des législations européennes anciennes remontant à l'époque coloniale et qui peuvent, dans certains cas, condamner soit de façon vague les actes immoraux, la débauche publique, soit de façon un peu plus précise les actes contre nature, selon justement le principe de naturalisation de l'hétérosexualité à laquelle nous faisions allusion et qui ne remonte pas au-delà du XIXe siècle dans le monde arabe. Le droit islamique classique, donc, ne connaît que des actes homosexuels et ne s'intéresse réellement qu'à la pénétration anale. Par contre, il ne connaît pas d'homosexuels. Mais les États contemporains du monde arabe, eux, quel que soit leur degré d'efficience et d'autoritarisme, sont régulièrement susceptibles de réprimer les homosexuels ou les femmes ayant des rapports sexuels avec des femmes ou hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, sous la double argumentation des législations coloniales et, d'autre part, d'une morale religieuse, mais en faisant fi des précautions d'un fiqh inapplicable. Il n'y a que les organisations terroristes installées sur un territoire qui inventent quant à elles l'application de dispositifs dont l'application réelle n'est pas attestée avant les horreurs contemporaines. La seconde conséquence est que la projection d'une identité homosexuelle sur des figures littéraires ou historiques arabes prémodernes est une phase logique dans cette constitution identitaire et communautaire homosexuelle que connaît le monde arabe depuis une quinzaine d'années et qui, tout comme en Occident, elle fondait Alexandre le Grand ou César en supposé homosexuel dans le cadre occidental, se choisit dans le monde arabe, se construit des icônes, comme par exemple le poète d'époque abbasside, Abu Nuwas, mort vers 813-815, supposé étiqueté homosexuel et illustrant une tout aussi supposée tolérance historique envers l'homosexualité. Ce discours, pour le chercheur, est anachronique, ahistorique, essentialiste, non scientifique, mais il est aussi à observer en tant qu'enjeu idéologique, parce que c'est une démarche qui vise, face à une réaction hostile conservatrice, à se rechercher de pieux ancêtres, en quelque sorte. Affirmer l'inscription de la culture arabo-islamique dans l'universel par le biais du plaisir et du plaisir transgressif devenu une valeur culturelle se disant universelle. Alors, une branche conservatrice de la démarche d'affirmer le droit au plaisir dans le cadre arabo-islamique peut se montrer très gênée par la présence effectivement massive d'une thématique homo-érotique dans les productions culturelles et notamment littéraires prémodernes du monde arabophone. Exemple entre mille, un ouvrage récent paru en anglais d'un certain Habib Akande, intitulé « Un goût de miel, a taste of honey, sexualité et érotologie en islam », est très gêné à sa page 152, après avoir réfuté le concept d'homophobie en disant qu'il s'agit simplement d'un instrument utilisé pour censurer les gens qui désapprouvent les relations entre personnes de même sexe, qu'elles soient, que leur désapprobation soit basée ou non sur un sentiment religieux, il s'interroge dans cet ouvrage, est-ce que l'homosexualité était tolérée dans la société musulmane traditionnelle ? La question, pour un chercheur, n'a pas de sens, puisque pourquoi employer ce terme d'homosexualité, qui en l'occurrence, de toute façon, serait anachronique ? Mais il s'abstient de répondre à sa question mal formulée en notant avec une certaine gêne l'étrange humour des érotologues médiévaux. C'est de fait une caractéristique commune à quasiment toutes les études publiées avant les années 1990, à savoir l'absence d'intérêt porté à la dimension homosociale et homoérotique des sociétés musulmanes à l'ère classique, où la gêne et l'embarras à l'évocation de cette question. C'est pourtant une dimension qui s'impose immédiatement à l'observateur à partir du corpus scripturaire arabe classique, mais également persan et ottoman, où le contact avec le monde arabe contemporain, où un observateur extérieur est susceptible de se trouver confronté à une définition de la virilité qui parfois lui échappe. Le traitement de la question dans les premières publications scientifiques en français sur sexualité et monde musulman hésite entre des allusions discrètes, comme par exemple chez Bousquet, la pédérastie est loin d'être inconnue chez les adultes, on sait que telle région de Tunisie est particulièrement réputée à cet égard. On ne saura jamais pourquoi la Tunisie plutôt qu'autre part, peu importe. On a également la tartufferie de Charles Pellat, qui estime que la séparation des sexes a joué un rôle capital dans, je cite, « ce qui demeure dans une large mesure un vice ». On ne sait pas pourquoi une large mesure plutôt qu'une petite mesure, peu importe. Ou les regrets mêlés de psychanalyse chez Abdelwahab Bouhdiba, je cite, « pédérastie et saphisme ne sont que succès d'années dérivatifs et formes compensatoires engendrées par la bipartition sexuelle et perçues explicitement comme pis-aller ». Fin de citation. La libération ou libéralisation des mœurs dans l'Occident à partir des années 70 a permis une levée du tabou discursive et dans une perspective bien différente de la dénonciation du vice oriental qui caractérisait le discours polémique chrétien puis colonial. Mais sans pour autant déboucher en France avant les années, le milieu des années 2000, du moins dans le discours destiné au grand public, sur une plus juste perception de l'homoérotisme dans les sociétés musulmanes prémodernes. Chez le défunt Malek Chebel, représentant quasi caricatural d'une néo-apologétique exaltant un âge d'or érotique arabe, la gêne des années 70 et 80 cède le pas au clin d'œil égrillard et à l'anachronisme, avec par exemple les Arabes homophobes. Il faudrait bien mal les connaître, aurait dit unanime El-Jahev, Abu Nouas, El-Antaki et bien d'autres amateurs éclairés qui, de toute façon, auraient trouvé l'idée saugrenue et peu consistante. Il est vrai que homophobie pour El-Jahev aurait effectivement probablement été un concept saugrenu. Mais c'était des érudits qui n'avaient pas de compte à rendre aux mollahs et aux censeurs. Fin de citation. C'est une formulation qui constitue un florilège d'approximation. Sans même s'étendre sur l'absurde référence à la très récente notion d'homophobie, des pratiques homosexuelles sont, chez cet auteur, assimilées sans questionnement à une identité homosexuelle. Trois littérateurs de périodes différentes, El-Jahrez meurt vers 869, Abu Nouas meurt vers 815, Al-Antaki meurt vers 1599. Ils sont présentés comme des amateurs éclairés, peut-être par la lumière de la modernité, de ce qu'on suppose être la sodomie. La présence dans leurs écrits d'anecdotes homoérotiques qui peuvent être chastes, qui peuvent être obscènes, est aussitôt comprise comme la revendication d'une préférence sexuelle, sous-entendant un rejet de l'hétérosexualité, les amateurs éclairés. Alors, peu importe manifestement pour l'auteur que le premier, El-Jahrez, soit un théologien mu'tazilite, un courant dogmatique qui affirme le libre arbitre et considère en conséquence que la faute, qui est assurément la sodomie au regard de la religion, place le pécheur dans une situation intermédiaire entre croyant et mécréant, ou qu'il est composé une épître défendant le ventre, donc le coït hétérosexuel, face au dos, donc le coït ou la sodomie. Peu importe que le second, Abu Nouas, soit un poète revendiquant la transgression dans un cadre normé d'un genre poétique ou d'un mode poétique, le libertinage, Moujoun, et qui, dans sa poésie, se préoccupe fort peu du consentement des partenaires adolescents qui sont rémunérés ou abusés dans le cadre rituel du viol comique, que ce viol comique corresponde à une réalité ou à un simple script littéraire. Peu importe, apparemment, que le troisième soit un médecin aveugle, donc on l'imagine mal se grisant à la vue des éphèbes, auteur d'une somme sur l'affliction amoureuse, considérée au XVIe siècle comme une branche de la médecine. Quant à l'opposition supposée entre le molla, terme qui désigne un homme ayant une compétence en sciences religieuses en Iran et au Pakistan, mais dont on suppose qu'il est utilisé ici comme symbole du rigoriste, l'érudit et l'hédoniste impénitent, bien, cette opposition, elle ne fait pas sens dans des cultures où l'érudition va de pair avec la maîtrise de codes éthiques et esthétiques qui sont intimement et même intrinsèquement liés aux religieux. C'est le développement des gender studies et des gay and lesbian studies dans les universités d'outre-Atlantique qui apportera, à partir des années 90, un appréciable renouveau aux études sur la sexualité dans les sociétés musulmanes. Mais en s'interrogeant préalablement à la suite des travaux de Foucault sur l'applicabilité de catégories construites parallèlement avec la modernité occidentale. Au scénario du texte sacré et de la loi, à l'analyse de l'éthique définie par les savants médiévaux, répondra désormais un intérêt pour les marges, pour les ratés de l'adéquation idéale entre sexe biologique et attitude normée. La littérature, les chroniques historiques, les textes de médecine viennent compléter, pour les chercheurs, le corpus étudié. J'en ai fini de ma deuxième remarque. On passe à la troisième. Le second axe dialectique, donc, est l'axe acte et, de l'autre côté, genre du partenaire. Dans ce débat concernant essentiellement les pratiques homosexuelles entre hommes, le sujet considère-t-il que ce qui définit son groupe, et par là son inscription au sein d'une masculinité normale ou divergente, est-il le type d'acte pratiqué avec le partenaire ou est-il le genre du partenaire? Les cultures prémodernes du monde arabo-musulman, et en dehors du monde arabo-musulman, dans la mesure où on peut les connaître par leurs écrits savants, considèrent que la nature de l'homme est d'être le sujet pénétrant. Dès lors, le choix du genre du pénétré est affaire d'une part de goût et d'autre part, plus gravement, de loi. Mais le pénétrant n'abdique pas sa masculinité selon le genre du pénétré. Il abdique éventuellement son appartenance à la communauté des croyants. Le désir d'être pénétré est, lui, construit culturellement comme anormal, anomique, maladif, à moins d'être justifié par le besoin financier ou par l'âge. Par contre, l'appréciation de la beauté adolescente est, elle, construite comme une norme, quand bien même la satisfaction de cette appréciation par le biais d'une pénétration irait à l'encontre de la loi. La question de la fréquence, de l'exclusive de goût, entre aussi en ligne de compte et distingue les productions littéraires du discours de la loi. La loi, elle, parle d'actif et de passif, de fa'il et de maf'oul bihi. Elle parle de sujet et objet d'un acte de pénétration et elle prévoit des châtiments sans se préoccuper du caractère unique ou répété de l'acte, du goût ou du désir des partenaires. La littérature, d'un autre côté, poésie, prose, érotologie, parle quant à elle justement de désir, de tendance, de préférence. Le loutri est le sodomite actif saisi dans le cadre d'une préférence. C'est pour ça que loutri n'est pas un terme juridique. Elle ne suppose néanmoins, cette étiquette, aucunement un mode de vie exclusif. Le loutri est susceptible d'être marié et avoir enfant. Il est même supposé être marié et avoir enfant. L'objet normal de son désir est l'éphèbe et non l'homme barbu, car le fait d'avoir une barbe ferait sortir l'objet du désir de la normalité médiévale. Autre personnage, le Ma'boun. C'est le sodomite passif par goût et donc perversion. Le Mu'ajjar est le prostitué masculin supposé partenaire passif. Le Mukhannath est l'efféminé et son lien à la sexualité est complexe, mais son comportement public n'est pas toujours lié à une préférence sexuelle qui est supposée cependant être celle du partenaire passif. Les recherches pionnières sur les textes médiévaux d'adab, de littérature de Everett Rawson montrent que ces textes distinguent entre ces différents groupes de transgresseurs, mais les liens établis littérairement entre le fornicateur hétérosexuel, le zani, aux zanin, et le sodomite actif, l'oti, sont parallèles au débat du fiqh sur l'analogie entre les deux actes, et ils apparaissent dès lors en littérature comme une variation sur le même thème. Des transgresseurs qui ne maîtrisent pas, alors qu'ils devraient le maîtriser, un désir normal de pénétration, mais qui se trouve sortir du cadre licite. Une simple différence de goût les sépare. Mais ils n'ont pas de communauté de destin avec les autres, ne montrent pas de solidarité, n'ont pas de sentiment d'appartir à un même groupe dans les sources littéraires. Quant à la réalité des sociétés, nous n'avons tout simplement aucun moyen de les connaître. Ces êtres de chair et de sang vivent « before homosexuality », avant l'homosexualité, pour reprendre le titre de l'excellent ouvrage de Khaled al-Rouayhab sur la thématique homoérotique chaste en littérature prémoderne de langue arabe. On arrive à la quatrième remarque. La quatrième remarque, c'est que la naturalisation de l'attirance hétérosexuelle, ou, employer un autre terme, l'hétéronormalisation du désir, a été, historiquement, un enjeu majeur de la modernité dans le monde arabe et une condition essentielle de la redéfinition de la place des femmes dans la société. Car il faut voir que dans les textes médiévaux qui exaltent la supériorité du dos sur le ventre, des éphèbes sur les jouvencelles, des plaisirs masculins sur la fréquentation des femmes, ces exaltations sont couplées à une virulente misogynie. Que cette misogynie soit humoristique ou non, n'enlève rien de sa violence. Et donc, la réhabilitation des femmes, la délégitimisation du discours misogyne chez les réformistes de la Renaissance arabe au XIXe siècle impliquait nécessairement pour eux de supprimer, de cacher, de dénoncer le discours de la littérature transgressive libertine qui exaltait la supériorité d'une société exclusivement masculine. Une des premières manifestations en langue arabe de cette hétéronormalisation du désir se trouve dans le fameux récit de voyage de l'Égyptien Rifa al-Tartawi qui visite Paris entre 1826 et 1831. Il note dans son récit de voyage que l'une des choses les plus appréciables dans la nature des Français et en quoi ils sont semblables aux bédouins d'antan, il veut dire par là de l'anté-islam ou du premier siècle, est qu'ils n'ont nulle inclinaison pour les jeunes gens, innocents Tartawi, et qu'ils ne vantent pas leur charme. On ne peut pas dire en poésie française « j'aime cet éphèbe » car ce serait là tout à fait inacceptable. Et quand ils traduisent nos écrits, ils adaptent et disent plutôt « j'aime cette jeune fille ». Tartawi estime que les Français ont raison de voir dans cet homoérotisme une corruption morale. Et il compare alors l'attraction d'un sexe pour l'autre à l'attraction du fer et de l'aimant ou à l'électricité statique. Et il établit qu'une attraction pour le même sexe sort du naturel. Kharaja an al-hal tabi'i. La première comparaison, celle de l'aimant ou de l'électricité, est déjà employée 1000 ans auparavant par le théoricien de l'amour andalou Ibn Hazm. Mais il s'en sert pour qualifier n'importe quel type de passion, homoérotique comprise. Avec Tartawi, donc dans les années 30 du 19e, va s'installer sans doute pour la première fois en langue arabe une argumentation restreignant le champ du naturel à l'attraction hétérosexuelle, avec un emploi volontaire de parallèle scientifique. Et le jeune voyageur s'est trouvé dans son bagage culturel, des vers de poésie de langue arabe qui semblent aller dans son sens. Il dit, il cite un poète, un certain Al-Yamani, un illustre inconnu d'époque mamelouk, « J'aime à la passion Saada, Rabab, Zainab, des prénoms féminins, et peu me chaud la myrte d'une première barbe ou la délicate lettre mime qu'elle dessine sur les joues d'un adolescent. Ma voix n'est pas celle de chanter les charmes des éphèbes, quand bien même cela devrait me valoir le blâme des censeurs. » ne pas reconnaître la beauté de l'adolescent lui vaudrait le blâme des censeurs. La seule beauté des jeunes gens, pour moi, c'est dans la bataille, quand ils portent une lance brillante et une cuirasse, qu'ils se lancent au cœur de la bataille et ne se laissent point détourner par les appels à la clémence quand il y a une tête à couper. Ces vers, dans leur moment de production mamelouk, sont l'expression d'une préférence que le poète craint blâmable, mais ils ne préfigurent en rien l'hétéronormalisation littéraire qui se met lentement en place à partir de la seconde partie du XIXe siècle. C'est simplement que Tartawi trouve un point d'accroche et les sort en quelque sorte de leur réception initiale pour leur donner une nouvelle signification. La conscience d'une différence culturelle sur ce point entre monde arabo-musulman et européen n'est d'ailleurs pas saisie avec netteté par tous les voyageurs arabes du XIXe. Frappé par la laideur insupportable des Français, le voyageur marocain Idriss al-Ramraoui aperçoit en gare d'Auxerre, ou Auxerre, un beau jeune homme depuis la fenêtre du train qui le mène à Paris en 1860, où il aura une audience auprès de Napoléon III. Et il nous dit... Nous n'avions point vu de visage plaisant depuis que nous avions pris pied sur la terre des chrétiens. Il captiva, ce jeune homme, le regard de tous mes compagnons qui m'invitèrent à composer impromptu quelques vers galants en matière de plaisanterie. Bien que je ne sois pas un maître de cet art, je dis alors « J'ai vu un faon à la porte d'Auxerre qui s'empare des cœurs par son regard langoureux. » Tous s'arrachèrent ce poème et ce fut le sujet de conversation de leur séance. Il y avait parmi nous le traducteur qui en prit une copie, la traduisit, m'assurant que la pièce lui plaisait fort et qu'elle était bien éloquente. Et à Paris, lorsque nous rendîmes visite au ministre, il m'assura que le traducteur l'avait informé de mes vers sur Auxerre, qu'il les avait trouvés très beaux et qu'ils étaient pour lui indice de notre intelligence et demandait à Dieu que nous trouvions à Paris d'autres sujets à honorer par notre poésie. Fin de citation. On peut s'interroger sur les intentions véritables du traducteur de cet ambassadeur. Devant donc le miroir tendu par l'Europe coloniale au vice oriental et pour assurer la légitimité de la présence des femmes dans l'espace public, l'extrême division homosociale caractérisant les sociétés arabes au XIXe siècle va être réduite partiellement et parallèlement l'homoérotisme délégitimé du moins dans les productions culturelles savantes, peut-être aussi, cela demeure direction de recherche, dans les productions populaires. Cependant, l'homosocialité demeure importante dans les sociétés arabes et pratiquement, elle fournit, jusqu'à la période contemporaine, une couverture efficace aux relations homosexuelles. L'observateur extérieur méprend des pratiques homosociales pour des pratiques homosexuelles. Des femmes se tenant la main dans la rue, des soldats se tenant la main dans une rue en Égypte peuvent être mal interprétées, vues à côté par un observateur extérieur. De même que hommes et femmes plus ou moins nus entre eux au hammam. Mais en même temps, ceux qui se tiennent la main peuvent par hasard effectivement être amants. Et les hammams peuvent effectivement être des terrains de drague. En cela, l'homosocialité, en quelque sorte, fournit une couverture à des pratiques homosexuelles, sous prétexte que l'on ne saurait confondre. Cinquième remarque, on approche de la fin. La nature globalisée des cultures contemporaines provoque, à partir des années 1990, une publicité et une visibilité du gay way of life occidental naissant. Aboutissement d'une évolution propre des sociétés occidentales. La transmission d'un modèle communautaire exigeant affirmation de sa préférence, coming out, revendication, communautarisation, cette transmission vers les sociétés arabes serait-elle le résultat navrant et plus ou moins involontairement impérialiste d'une internationale gay, blanche, dominante et néo-orientaliste ? C'est ainsi que le théorise Joseph Massad, élève et successeur d'Edouard Saïd à Columbia University, dans un article de 2002. Il fait paraître cet article d'une grande violence et parallèlement d'une certaine pertinence, intitulé « Réorientation du désir, l'international gay et le monde arabe », dans laquelle, article dans lequel il s'attaque à ce qu'il perçoit comme l'ethnocentrisme missionnaire du mouvement gay américain et européen, qui plaquerait maladroitement ses conceptions et son agenda sur les pratiques homosexuelles dans les pays arabes et ne parviendrait qu'à hystériser le conservatisme islamique en mettant en lumière des pratiques qui vivaient plus sereinement dans l'ombre. Il faut se rappeler qu'en 2002, quand Joseph Massad fait paraître cet article, l'État égyptien venait de lancer sa spectaculaire attaque contre les gays Kérot dans le cadre de la grande rafle du Queen Boat en mai 2001, une péniche boîte de nuit gay-friendly, dira-t-on, et c'était là le premier épisode d'une série de rafles et de pièges policiers contre les lieux de rencontre homosexuels partout dans le monde arabe, dans le cadre d'une panique sexuelle et d'une interrogation sur les codes de masculinité locale. Il y avait donc, en 2002, quelques pertinences à se poser des questions sur la nature éventuellement contre-productive de l'adoption de l'épistémologie occidentale moderne. Traçant un parallèle entre le féminisme blanc et occidental qui pensait universaliser ces enjeux en imposant son féminisme colonial au mouvement féministe dans le monde non occidental, je cite, et des organisations de défense des droits des homosexuels, je cite encore, dominées par des hommes blancs occidentaux, Massad estimait qu'une vision néo-orientaliste caractérisait l'attitude de l'international gay, un terme fourre-tout dans lequel il désignait précisément l'International Lesbian and Gay Association, mais plus généralement, tout discours soit universitaire, soit journalistique, soit enfin militant, émanant d'homosexuels non arabes et portant sur le monde arabo-musulman. Et donc, pour lui, les supporters de cette internationale auraient fourni deux types de discours. D'une part, une littérature académique décrivant et expliquant l'homosexualité, guillemets de l'auteur, dans les mondes arabes et musulmans, ainsi que des récits journalistiques rapportant le quotidien des « gays », même guillemets, dans cette partie du monde. Texte essentiellement destiné à informer les touristes sexuels gays, cette fois-ci sans guillemets, sur la région. Un même agenda, pour lui, caractérisait les deux discours. Libérer les « gays » et lesbiennes, cette fois-ci avec guillemets, arabes et musulmans, de l'oppression supposée dans laquelle ils vivaient, et les transformer de pratiquants de rapports entre personnes de même sexe en sujets s'identifiant comme homosexuels et gays. Et donc, la thèse de Massad était, en 2002, que c'est ce discours de l'international gay qui produit des homosexuels, des gays et des lesbiennes, là où il n'existe pas, là où il n'y a que des êtres ayant des rapports avec personnes de même sexe, et qui refusait d'être assimilé dans cette épistémologie sexuelle présentée comme un aboutissement nécessaire en supposant préalablement que ces catégories sont universelles. L'auteur examinait des écrits de chercheurs sur le monde arabo-musulman, stigmatisait le discours essentialiste ou l'hypothèse romantique selon laquelle la plupart des sociétés musulmanes ont traité l'homosexualité avec indifférence, sinon admiration, ou celle selon laquelle la catégorie homosexualité a toujours été absente du monde musulman. Il examinait les effets du projet modernisateur colonial sur la sexualité dans le monde arabe, débouchant sur l'apparition dans la langue d'une équivalence jins-sexe, se substituant à l'ancien sens genre, et l'imposition d'une norme hétérosexuelle dans l'élite occidentalisée, où l'international gay trouvait justement ses informateurs, minuscules minorités parmi les hommes qui ont des relations sexuelles entre eux et ne s'identifient pas comme gays ou n'expriment pas le besoin d'une politique gay. On pouvait, dès 2002, formuler deux types d'objections à cet article en dépit de la pertinence de certaines de ses analyses. Peut-être d'abord une objection militante qui est qu'il passait un peu rapidement sur la détermination des sujets dans le monde arabe ayant des rapports avec des personnes de même sexe à se définir comme gay et à vouloir se constituer en communauté en dehors de l'agenda occidental. Donc finalement que cet article niait leur agentivité en les décrivant simplement comme des victimes d'un mouvement les dépassant. La seconde objection était que le modèle gay n'est pas simplement véhiculé par des associations militantes ou par un discours d'universitaire ayant ou pas un agenda politique, mais par des productions culturelles diverses allant de la sitcom au film, du clip vidéo musical au roman, du blog à la pornographie, sans compter la circulation des personnes. Et que la mondialisation des comportements ne pouvait de ce fait demeurer aux portes du monde arabe, comme le nuage de Tchernobyl s'arrêta aux portes de la France, comme on le sait, quoi qu'espèrent les États autoritaires et les conservateurs religieux réunis, qui cherchent à se légitimer mutuellement sur le dos des individus, qu'ils se définissent ou non comme homosexuels. L'incident de décembre 2014, où une équipe de télévision privée décide en Égypte de lancer un raid contre un hammam du Caire, effectivement connu comme lieu de drague, et convoque la police qui arrête tous les hommes présents et les jette en pâture sur les écrans, a montré par ailleurs que les États, y compris autoritaires, n'aiment pas se laisser dicter le moment d'intervenir par des médias avides de scandales. La journaliste Mouna El-Iraqi s'est retrouvée en procès, accusée de fausses accusations, et les accusés, eux, acquittés des charges pesant sur eux. Non pas par clémence ou ouverture d'esprit du tribunal et de l'accusation, mais par décision de l'État de garder cette carte dans sa manche quand il en aura besoin, sans se faire forcer la main par les médias. 15 ans après la publication de l'article de Massad, le débat semble quelque peu dépassé, puisqu'il existe dans nombre de pays arabes un militantisme LGBT, des associations, la première historiquement étant Halem, rêve, au Liban, mais également en Palestine, en Jordanie, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, avec des publications. Shems Magazine, publication diffusée sur Internet d'une association tunisienne avec une couverture en langue française, une page 2 avec éditorial en arabe, mais également français en bas de la page, ce qui définit également un public, un lectorat sur le plan socio-culturel. Une des intéressantes, ou autre exemple, éventuellement, le magazine sur l'Internet, cette fois-ci, Maïkali en Jordanie. Se donnant sa propre définition, Maïkali est le magazine électronique le plus et le seul dans le Jordan, et une des premières magazines électroniques dans le Sud-Est et le Sud-Est de l'Afrique, qui tourne de façon complète les questions des mythes et des mythes, les thunaïs et les thunaïs, les mouillons de genre, les mutahawilins et les mutahawilats, genciens et genderiens, etc. Donc, c'est Maïkali est un magazine électronique, le premier et unique en Jordanie, et l'un des seuls magazines électroniques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord qui s'occupent exclusivement des questions concernant les homosexuels de sexe masculin et féminin, de même que les bisexuels masculins et féminins, et de même que les transgenders de tout type. Une des intéressantes modifications apportée par ce militantisme LGBT, la modification des termes empruntés en langue arabe pour désigner l'homosexualité et le lent remplacement du syntagme shuzuz jinsi, littéralement déviationnisme ou anormalité sexuelle, un néologisme probablement créé dans les années 1930-1940, bien que personne ne se soit préoccupé d'en reconstruire l'historique, donc son remplacement par « mithliya jinsiya » qui est une traduction beaucoup plus littérale de « homosexualité ». C'est un néologisme fondé par des militants LGBT arabes américains au tournant du millénaire, avec une controverse importante dans l'histoire LGBT arabe entre le militant américano-palestinien ou palestino-américain Ramzi Zakharia et l'éditorialiste du journal El Hayat, Jihad El Khazin, en mars 1996, sur la nécessité de supprimer, de ne plus utiliser le terme Shuzuth Jinsi et de le remplacer par Misliya Jinsi. Ce nouveau terme a commandé l'invention d'un autre néologisme, Ghayriya Jinsiya, hétérosexualité, et de tout un vocabulaire qui s'impose maintenant dans les sciences sociales en langue arabe, dans le discours militant, par exemple homophobie Ruhab el-Misliya, est désormais le terme consacré, et dans le discours journalistique. Dans une première phase, l'adoption de Misliya à la place de Shuzuth Jinsi était une prise de position libérale et un acte politique de la part du scripteur. Dans une seconde phase actuelle, la charge politique du terme a tendance à se dissoudre puisque cette appellation politiquement correcte est susceptible désormais d'être utilisée par des conservateurs. Les champs de la recherche actuelle sont donc multiples. Il y a des recherches de sociologie sur le terrain arabe examinant la constitution de communautés homosexuelles ou l'absence de constitution, le passage du paradigme personne ayant des rapports physiques avec personne de même sexe dans le cadre de sociétés encore largement homosociales à des homosexuels revendiquant leur sexualité comme identitaire dans des circonstances politiques néanmoins objectivement moins favorables que l'Europe et les États-Unis des années 60 à 90. C'est ainsi que se dessine dans la recherche actuelle la nécessaire histoire du militantisme LGBT émergent au Maghreb et au Moyen-Orient, ainsi que la façon dont ce militantisme discute et dialogue avec l'héritage culturel. Je vous disais la revendication d'Abou Nouas comme une icône. On l'a justement dans Shems Magazine, avec une page sur l'homosexualité dans l'histoire arabo-musulmane et évidemment la convocation comme ancêtre modèle de Abou Nouas. Donc quelque chose qui fait évidemment mal aux dents de n'importe quel chercheur, mais est tout à fait explicable dans cette formation d'une histoire, d'une identité commune. Parallèlement, ce courant d'études s'intéresse au droit local, à la criminalisation des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe dans les sociétés arabes contemporaines ou aux associations de lutte contre les MST et leurs liens au militantisme LGBT. Dans le cadre journalistique, cela débouche généralement vers un misérabilisme assumé sur la difficile condition de l'homosexuel arabe ou musulman, selon langue éditoriale sélectionnée, ou des enquêtes entre l'académique et le journalistique, comme par exemple « Unspeakable Love, Gay and Lesbian Life in the Middle East » de Brian Whitaker. C'est le type même de la publication entre journalisme et études scientifiques. Un cas particulier est constitué par les communautés arabes ou s'identifiant comme telles à l'étranger, la question de la race et de la sexualité venant se mêler pour construire des images complexes comme celle du beurre en France, à la fois objet de désir et de fantasme, mais aussi construit comme lié à une hypervirilité menaçante. Par exemple, le ouvrage récent « Sexagon, Muslims, France and the Sexualization of National Culture », donc les musulmans, la France et la sexualisation de la culture nationale, avec un François Saga de dos en couverture, vedette du porno homosexuel ayant commencé sa carrière comme supposé arabe dans des films pornographiques, ce qu'il n'est pas. Il est un domaine sur lequel on manque d'informations détaillées à ma connaissance. Ce sont les discours de conciliation entre foi musulmane et identité homosexuelle, Ludovic Mohamed Zayed en France par exemple, d'autres ailleurs, qui sont certes traités dans le cadre sociologique, mais pour lesquels il manque une analyse de leur argumentation, particulièrement l'historique des relectures et réinterprétations de l'épisode de Lot, qui est la pierre d'achoppement de toute réhabilitation de l'homosexualité en cadre islamique, et la manière dont la lecture classique judéo-christiano-islamique de cet épisode, comme lecture classique comme condamnation de la pénétration anale, la sodomie, tautologiquement, hein, Sodome, est réfutée et sur quelle base dans un cadre de foi? C'est-à-dire qu'à côté du discours militant, ce qui manque, c'est une analyse de cette perspective militante. Il y a, d'un autre côté, des recherches portant sur les productions culturelles issues du monde arabe contemporain, littérature, cinéma, télévision, publicité, ou de la culture arabe classique sous toutes ses formes. C'est peut-être là, justement, où les études sont les plus riches et les plus nombreuses. Que ce soit la loi, le statut de la pénétration anale dans le fiqh, aux diverses catégories de transgresseurs dans les sources littéraires, en passant par la poésie homoérotique chaste. C'est là le domaine dans lequel je travaille, et particulièrement dans une optique contrastive entre les textes prémodernes et les productions contemporaines, pour interroger des invariants et des ruptures. Mais, pour revenir sur une remarque de Pascal tout à l'heure, il convient néanmoins de garder en tête que les productions culturelles, qu'elles soient littéraires ou autres, ne sont aucunement un reflet direct d'un réel insaisissable, aussi bien pour les périodes anciennes que contemporaines. D'abord parce qu'elles sont des représentations produites dans un cadre donné, selon des codes donnés. Je vais être plus précis. Par exemple, dans le cadre de la sexualité entre personnes de même sexe, ce sont les rapports entre hommes qui intéressent les auteurs, par ailleurs masculins. Les rapports entre femmes existent, mais ils occupent une surface textuelle infiniment inférieure et avec beaucoup moins de détails scabreux. C'est la pénétration rectale qui est le plus souvent évoqué, plus rarement que le rapport intercrural, et jamais les rapports oro-génitaux ne sont évoqués dans cette littérature médiévale. Or, il est difficile d'imaginer qu'il n'ait pas existé. Si on n'en parle pas, ce n'est sans doute pas par pudeur, car des détails d'un scabreux inimaginable existent pour la pénétration rectale, mais probablement parce que ces rapports orogénitaux sont en dehors du code littéraire, des usages du libertinage, du moujoun littéraire. Les idées et les conceptions exprimées dans les textes médiévaux sont celles de l'élite. Les textes sont donc susceptibles de refléter des dynamiques sociales, mais pas la société même. Et d'autre part, il faut également prendre en considération que ces productions non seulement reflètent des dynamiques sociales, les représentent, mais elles ont aussi, ces productions, une dimension performative. Elles agissent aussi sur le réel. Elles fournissent des scripts comportementaux. Elles légitiment ou délégitiment des comportements ou des désirs. Et c'est à cette condition de prudence qu'on peut les exploiter et éviter les ornières du, ouvrez les guillemets, la société arabo-musulmane médiévale est tolérante de l'homosexualité, comme le montre la poésie d'Abou Nouas. Alors, étant arrivé à la fin de mon introduction, que j'avais prévenu être la quasi-totalité de mon intervention, j'ai le choix entre parler encore une heure sur une anecdote médiévale, ce qui nous porte vraiment très tard, ou commencer éventuellement avec un texte moderne, ou éventuellement tenter de commenter les deux. Je vais commencer par le texte moderne. Un passage de roman. Le personnage homosexuel dans le roman arabe moderne est usuellement, soit petit un personnage secondaire, élément du décor populaire, la folle de la Hara, en quelque sorte, qui va être soit dénoncée, soit introduite de façon tout à fait neutre dans le roman. Deuxième paradigme courant, c'est un personnage secondaire, beaucoup plus rarement central, connaissant une phase de malaise et de haine de soi, le menant à penser au suicide. Troisième paradigme, le personnage homosexuel ou le rapport homosexuel de pénétration anale sera une allégorie de la violence politique ou de la domination occidentale. C'est cette troisième figure qui a particulièrement été étudiée par Joseph Massad dans son ouvrage « Desiring Arabs », à la fois « désirer les Arabes » et « Arabes désirants ». En tout état de cause, le lien ou le rapport homosexuel n'est pas un sujet de rire ou d'amusement comme dans le modèle médiéval. L'interrogation du personnage sur une éventuelle identité homosexuelle n'est pas une thématique centrale. Les exceptions à ces paradigmes sont à rechercher dans la littérature arabe d'expression française ou anglaise. Abdallah Taïa, Rachid O pour le Maroc, le premier roman du Libanais Rabia Alameddin Kouleids en 1998, avec également le traitement de l'arrivée du sida, ou beaucoup plus récemment, ça vient juste de sortir, un roman qui s'appelle Guapa, du Libano, qui est le nom d'un bar dans le roman, du Libano-Palestino-Iraco-Allemand Salim Haddad, roman de 2016. En langue arabe, il n'y a jusqu'à présent, avec une exception à laquelle je vais venir, pas de roman dans lequel le personnage principal soit homosexuel, se revendiquant comme homosexuel et parlant à la première personne. C'est pour ceci que l'apparition, donc, en 2017 au Caire, du roman, je tiens à l'envers, Firorfat al-Ankabout, dans la chambre de l'araignée de Mohamed Abd al-Nabi, est inattendue et marquante. La narration est à la première personne, le narrateur se revendique homosexuel et fait partie des nombreux hommes arrêtés au Caire dans le cadre des rafles du Queen Boat. Le personnage est arrêté dans la rue le même jour, balancé par un informateur de la police, laquelle police vise à faire du chiffre. Dans sa cellule commence l'introspection et le parcours d'un homosexuel égyptien de la classe moyenne supérieure, mère actrice, tante chanteuse, entre désir, haine de soi, désir d'enfant, mariage, puis aventure avec le mari de la meilleure amie de sa femme, arrestation, perte de la parole suite au choc après sa libération, et conclusion sur la résilience et la recherche d'un droit au bonheur dans le couple homosexuel. Les dernières lignes du roman sont ainsi, revenant à la scène du début où il est arrêté avec son compagnon. « Nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver à l'endroit même de la place Tahrir où avait commencé le cauchemar et l'arrestation. Je traînais ma valise, mes cahiers de notes dans un sac à bandoulière. Je suis allé vers le rendez-vous, le visage découvert, sans lunettes noires, à pas ferme ou feignant le courage. Une fois arrivé à sa voiture, il m'a tendu la main, il a saisi mes doigts dans sa grande poigne. Tout était possible à cet instant. » Fin de citation. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il ne s'agit pas d'un roman confidentiel. Ce qui est également étonnant, c'est que ce roman vienne d'Égypte. Là où le discours masculiniste est particulièrement virulent. Ce qui est étonnant également et tout à fait remarquable, c'est que ce roman, je disais, n'est pas confidentiel puisqu'il est parvenu jusqu'à la shortlist, la liste des 6 meilleurs romans de l'année, du Arabic Booker Prize, le prix littéraire actuellement le plus prestigieux du monde arabe, décerné à Abu Dhabi, l'International Prize for Arab Fiction. Et il n'a pas eu le premier prix, mais il faisait partie donc des 6 romans sélectionnés ayant un prix. Et je vous propose un extrait, un premier extrait, qui justement évoque le sort des prisonniers après la rafle, après les rafles de 2001.
Nous avons tous été tabassés dans le poste de police du quartier d'Azbakeï. Ceux qui avaient avoué, ceux qui s'entêtaient, ceux qui se disaient actifs, ceux qui se disaient passifs. Entre les mains des policiers, je ne faisais pas le poids. Deux ou trois baffes et j'étais prêt à avouer tout ce qu'ils me dicteraient. Ils me demandèrent de baisser mon pantalon. Grâce à Dieu, j'avais un slip blanc. J'avais appris que ceux qui portaient des culottes de couleur se faisaient particulièrement insulter et tabasser, puisque c'était supposément un signe évident de leur effémination. Ils se marraient. Il y avait dans leur voix un étonnant écho de victoire, comme si leur virilité, comme si leur statut d'étalon se gonflait et s'érigeait jusqu'au ciel avec chaque nouveau pervers, le terme employé est « chaise », qui leur passait entre les mains et avec lesquels ils s'amusaient. Moi, je n'avais pas été fouetté comme Karim, mais des coups de poing m'attendaient dès mon entrée en salle d'interrogation. Leurs poignes de taureaux enragés se fichaient dans l'estomac, comme si un 15 tonnes déchargeait sa cargaison à l'intérieur de vous. Et puis après quelques secondes, ça recommence et on a l'impression que cette charge restera en place pour toujours, que jamais plus on ne pourra respirer normalement. Puis le coup suivant et le suivant dans le dos. Puis une claque brûlante dans la nuque. Et ça, ça vous ramène sur terre. Ça vous fait oublier le roc que vous avez dans le ventre, comme s'il n'existe plus. Et vous découvrez que la douleur est comme la jouissance, qu'il est impossible d'en connaître les limites. Sans réfléchir, je leur dis ce qu'ils voulaient savoir. Je suis gay, actif, passif. Ils me demandèrent de répéter, après avoir mis en marche leur enregistreur, et arrêté les coups. Ma voix baissa d'un ton, retrouvant presque sa texture naturelle. D'autres que moi avaient répété ce même mot « gay » en anglais dans le texte, sous les coups, mais sans le comprendre. Un des types arrêtés me demanda, rentrant dans notre cellule, en sang, « gay, ça veut dire celui qui encule ou celui qui se fait mettre ?» Fin de citation. Le passage est de la part de l'auteur un clin d'œil conscient ou inconscient à Joseph Massarat, finalement, revenant à ses jours de 2001, où le vocabulaire anglais et la définition identitaire de l'homosexualité ne concernaient effectivement qu'une frange limitée et bourgeoise de la population, alors que, dans les classes populaires, les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes se découvraient visés par des rafles incompréhensibles qui visaient à impressionner l'opinion et à assurer à cette opinion inquiète que l'État moubarakien veillait à ce que l'installation d'une épistémé décadente s'arrête aux frontières nationales. Ce qui est intéressant dans la scène, c'est que le tortionnaire policier connaît le mot « gay » et il reconnaît de l'auteur en tout état de cause, son danger évident, parce que ce mot vient bouleverser les hiérarchies de rôle, pénétrant, pénétré. Il subsume l'actif et le passif dans une même catégorie. Ce mot « gay » susurre que le pénétrant et le pénétré seraient égaux. Pour avoir été tabassé à cause de ce mot, le gay arabe de 2017, nous ne savons strictement rien de la sexualité de Mohamed Abdennabi, mais nous savons quelle est celle du narrateur de son roman, le gay arabe de 2017 se construit sa geste martyr à défaut d'être héroïque. Le Queen Boat remplaçant Stonewall de New York et lui permettant de revendiquer d'avoir été un des martyrs. Peut-être l'héroïsme est-il en l'occurrence à rechercher dans la démarche littéraire et éditoriale. La scène de torture en prison est un topos du roman arabe. Elle se choisit pour héros des idéalistes qui s'élèvent, au nom de lendemain qui chante, contre l'État totalitaire ou les milices, du moins dans le roman égyptien. Certes, Yalo, dans le roman libanais d'Elias Rouri, n'est pas un héros. Et pourtant, il est torturé en prison, mais c'est presque l'exception qui confirme la règle. Généralement, l'homme torturé en prison est le militant pour des valeurs nobles. C'est éventuellement
le tortionnaire qui le sodomise pour l'humilier. Mais ici, le héros autodiégétique demande simplement son droit à être sodomisé pour le plaisir et affirme que l'honneur n'est pas dans l'anus de l'homme, impliquant donc qu'il ne l'est pas plus dans l'hymen féminin. Refusant la construction traditionnelle de la masculinité, mais de façon plus extrême que le roman féministe. Mais en même temps, la scène nous montre que le chemin est long, car son compagnon de cellule, arrêté en même temps que lui, torturé pour la même raison, lorsqu'il revient dans la cellule, gay, ça veut dire quoi ? Veut savoir quel rôle on lui a prêté des fois que l'on se soit mépris sur son statut de pénétrant. Gay arabe, encore un effort, en quelque sorte, semble suggérer Mohamed Abd al-Nabi. Pourtant, justement, le premier rapport sexuel est affirmé être le personnage passif est une, ou le partenaire passif, excusez-moi, est une rupture claire avec les codes des récits homoérotiques médiévaux. Second extrait du roman. Le narrateur dit « J'étais un adolescent dodu. Je me parlais à moi-même dans le vide du grand appartement du quartier Abdin où nous avions déménagé. Je pouvais bien mettre le son de la télévision au maximum, griffonner mes pensées morbides dans un journal intime, imaginer des amis invisibles avec lesquels partager un sentiment de souffrance et d'étouffement. L'odeur de la solitude me suivait partout, de pièce en pièce. Puis, Ra'fat réapparut après une longue absence. Le Ra'fat en question étant un ouvrier de l'atelier de confection qu'il aperçoit depuis la fenêtre de son balcon. Et dans une scène qui est assez étonnante dans ce roman, le narrateur explique que ses premiers émois sexuels de 12 ans étaient de regarder les hommes pisser dans les toilettes en contrebas. Et l'un d'eux l'avait remarqué, qui va devenir son compagnon de jeu quand l'atelier est fermé. Ra'fat réapparut après une longue absence. Il vint une après-midi de chaleur insupportable, un de ces jours où on aimerait sortir de sa peau pour échapper à la moiteur. J'entendis des coups sur la porte. J'étais heureux et apeuré en même temps. En le voyant mâchonner son sourire devant la porte, je fus désarçonné. J'avais arrêté de lui rendre visite à l'atelier depuis longtemps, je l'avais presque oublié. Il me dit qu'il apportait le loyer pour ma mère et qu'il avait un message à lui transmettre de la part du patron. Je répondis qu'elle n'était pas là, mais il se permit d'entrer, prenant place sur le canapé, demandant un thé, tout en sortant un paquet de cigarettes de sa chemisette à carreaux. Dans la cuisine, je fixais l'eau qui ne voulait pas bouillir assez vite. Je me rappelais une rencontre volée dans l'entrepôt et tout mon corps fourmillait violemment à ce souvenir. Je me disais que si nous recommencions ici ce que nous faisions là-bas, la terre risquait de s'arrêter de tourner, le plafond de s'entrouvrir et le ciel de se fendre au-dessus de nos têtes. Je me demandais s'il allait essayer de faire quelque chose avec moi et si je parviendrais à résister. Il sirotait son thé et nous faisions semblant que tout était naturel, l'hôte parfait et son invité dans un silence gêné. Il me proposa une cigarette, je le remerciai d'un signe de tête. Il me demanda comment allait l'école, je lui répondis en fixant la photo de mon père derrière lui. J'entre en seconde. T'es doué pour les études, toi. Après avoir, donc, on comprend par que le narrateur a 15 ans, 14-15 ans. C'est-à-dire exactement, ce 14-15 ans, exactement l'âge des éphèbes dans la poésie nouassienne. Après avoir terminé son thé et éteint sa cigarette dans le même cendrier en coquillage qu'utilisait mon père, il se leva et s'approcha de moi sur le même fauteuil à une seule place. C'est dans ma chambre que je le vis pour la première fois, intégralement nu, son corps en entier. Il était plus beau que je l'avais imaginé. Ses poils frisés couraient sur sa peau très blanche, selon des lignes qui m'enchantaient. J'éloignais ma tête simplement pour mieux les voir. Lui embrassait toutes les parties de mon corps qu'il parvenait à saisir. Ce fut la première fois que je me laissais pénétrer par un homme. La douleur était mêlée à la peur que ma mère arrive à l'improviste et à la jouissance d'être possédée par un homme. Enfin, je ne ressentis absolument pas que quelque chose en moi se brisait ou que je perdais quoi que ce soit d'important comme mon honneur, mon intégrité ou ma virilité. C'était même exactement le contraire. Je retrouvais quelque chose que j'avais perdu, une fêlure était réparée comme une poupée cassée qui, par miracle, trouve quelqu'un pour en recoller les morceaux et retrouver vie et peut se remettre à parler, à bouger, à danser et à chanter. Fin de citation. Nous voyons donc là, effectivement, une sorte d'avènement de ce qui pourrait être qualifié une littérature homosexuelle dans le cadre de la littérature de langue arabe. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de comparer cette scène de séduction et cette première pénétration avec une scène parallèle, mais fort différente, en littérature arabe médiévale. Et c'est là que nous devons faire un choix important, qui est de continuer à parler ou... On peut limiter les 3 heures, on peut simplement éventuellement lire un extrait et tenter quelque peu d'abréger. Eh bien, on va revenir justement à notre Abou Nuwas, puisqu'il est censé être l'icône en prenant une anecdote qui est tirée de 3 sources différentes dans lesquelles on trouve des akhbar, des textes anecdotiques, narratifs, portant sur Abou Nuwas. Je précise qu'il faut absolument distinguer entre un personnage historique appelé Abou Nuwas, Al-Hassan ibn Hani Abou Nuwas, dont on sait qu'il est mort vers 813-815, qu'il serait né au milieu du 8e siècle, probablement à El-Ahwaz, dans le sud actuel de l'Iran. Distinguer entre ce personnage historique sur lequel nous ne savons presque rien et d'autre part un personnage littéraire qui est construit dans des sources de littérature savante dite adab. Donc, l'Abou Nuwas dont il va être question ici est l'Abou Nuwas personnage littéraire. Voici l'anecdote supposée se passer à Koufa. Il y avait à Koufa un jeune homme libre et vaillant, Fata, natif de la ville, noté Jamal, beauté, et qui appartenait au clan des Benoudarim. Il monta à Bagdad sous le règne de Haroun al-Rashid. Jamal était d'une grande beauté à l'orée de la jeunesse et il ne buvait pas de vin. Cependant, il avait les manières impétueuses d'un malandrin. Il était doté d'une remarquable endurance au combat et d'une force peu commune. Il s'adonnait à la poésie et il avait troussé des vers sur 50 des plus beaux garçons imberbes de Bagdad, parvenant ainsi à 50 poèmes dans lesquels il mentionnait son affection sincère comme ses polissonneries avec eux en termes excellemment choisis. On récita certains de ces vers à Abou Nuwas qui sont qui de lui. Ils sont de Jamal le Koufien, lui répondit-il, et Abou Nuwas n'en apprécia que plus son raffinement et les images qu'il avait créées. Ce Jamal avait déjà son compte de victime, blessé ou mutilé alors qu'il n'avait pas 20 ans, ce qui ne fit qu'augmenter son prestige aux yeux du poète qui insista pour le rencontrer. Sa flatteuse réputation avait déjà fait le tour du faubourg d'El-Karr, où se situent les tavernes. Un jour qu'Abou Nuwas était dans le quartier des parcheminiers de Bagdad, il avait coutume de fréquenter ces derniers à El-Karr, dans une ruelle, comme de tenir salon avec les copistes dans le camp d'El-Mahdi, un jeune garçon qui avait noble allure vint à passer. Le poète apprécia sa taille gracile, son visage avenant, son aspect imposant, ce qui fut aussitôt remarqué par les parcheminiers. Ils le tirèrent alors par la manche, avant qu'il n'allât le suivre, et le mirent en garde. Mais sais-tu de qui il s'agit ? Pas du tout. C'est Jamal le Koufien. Ah, le fripon ! Par Dieu, il mérite bien son nom. Mais c'est un guerrier. Nous ne voudrions pas qu'il s'en prenne à toi et te donne un coup de sabre qui te sera à coup sûr fatal. N'y aurait-il pas alors parmi vous un messager qui puisse lui transmettre mes vers ? Demanda Abou Nouas. On fit mander un jeune esclave et le poète rédigea alors ce billet versifié. « Toi qui décris les 50 et Phèbes, fais-toi justice. C'est ton propre nom qui devrait figurer en tête de liste. Tu chantes les charmes de 50 beautés, mais tu es la mère des gazelles à chanter. Laisse-les ou courtise-les comme tu voudras. Tu es par le Seigneur bien plus beau que ces drôles-là. Le sectateur de Lot ne quittera pas du regard ta croupe sublime avant qu'il n'y eût déchargé son dard. Tu es un beau poisson qui mange ses petits sans pitié, mais tu es suivi par un gros requin carnassier. Te voilà déjà à cheval, l'histoire n'est pas finie. Sois clément, mon aimé. Pourquoi te hâtes-tu ainsi ? L'esclave apporta ses vers à Djamal qui, quand il les eut lus, répondit « Dis-lui, imposteur, sale ivrogne, sache par Dieu que je te ferai rendre gorge, fils de catin. » L'esclave retourna au bout d'Abou Nouas et lui rapporta le message. Le poète improvisa alors à propos ce distique. « Parfois l'homme libre à l'éphèbe se soumet. Cela ne diminue en rien son honneur. Mon petit maître, insulte-moi à ton gré, vois l'excès de ma soumission et son ampleur. » Quand ces vers parvinrent à Djamal, ce dernier dit à l'esclave, sortant une arme dissimulée en sa manche, « Vois-tu bien ce poignard ? Fais savoir à Abou Nouas de ma part que je fais serment de le tuer avec. » Abou Nouas répliqua encore par des vers. « Tu fais serment de me tuer et ta dague s'est alliée à tes mains pour m'expédier aux cieux. Mais sache, mon beau seigneur, qu'aucune dague n'est plus mortelle que ton regard langoureux. Tu as appelé mon cœur à t'adorer. » Te répond présent, puisses-tu être heureux. Accorde-moi, mon beau, sans cruelle avarice, une petite heure de bonheur entre tes cuisses. » Et il fit envoyer ce poème à Djamal, qui n'en fut que plus violemment courroucé. Il menaça Abou Nouas, mais cela ne fit rien à l'affaire, et le poète ne cessa de le flatter, de le cajoler et de lui servir de commensal, si bien que les dispositions de Djamal s'adoucirent à son égard et qu'il finit par apprécier sa compagnie. Mais une nuit, Abou Nouas abusa subrepticement du jeune homme alors qu'il était ivre-mort et il composa les vers suivants à ce propos. « Il marche, se pavanant comme un rameau ondulant, les pommettes telles une rose, les plis du ventre suaves et odorants. Il exhale le musc, sa bouche est sertie de perles. Il ambitionne de terrasser, sa poigne est celle d'un guerrier. Je lui dispute un vin frais qui brille comme un éclair, puis dit « Prends-en et serre-moi. Quand il sera saoul, je pourrai jouer. Béni soit cette invitation qui mena à sa conjonction. » Voilà l'Abou Nouas que l'on trouve effectivement en littérature médiévale. Un khabar rapporté par l'auteur du XIVe siècle, Manzour, constitué d'une longue mise en place de l'anecdote avec plusieurs ensembles de poèmes, des fragments réunis au sein d'un cadre narratif mis en cohérence par le compilateur. Présentation de l'objet du désir, rencontre du désirant et désiré dans un lieu identifié, tentative ratée de séduction par la poésie, par la littérature même qui devient un outil de séduction, mais victoire par voie de ruse. Pénétration de l'objet du désir, érotisé par le danger, et les vers sont supposés avoir été composés en évocation d'une situation réelle dans le cadre d'une unique aventure. Le jeune malandrin, dans d'autres versions, n'a pas le même nom. Mais, en tout état de cause, il y a une construction discursive précoce dès les premières versions de l'anecdote du jeune homme viril comme objet de désir du loti, à côté et en contraste avec le désir qui peut également être évoqué en littérature pour un objet androgyne. Cette fois-ci, ce qui excite Abou Nouas, ce n'est pas la nature indécise entre masculinité et féminité de Djamal, c'est justement son extrême virilité qui fera d'Abou Nouas un surhomme s'il parvient à le vaincre, puisque la pénétration est une guerre. Le danger qu'il représente est un catalyseur du désir. Mais pour devenir objet de consommation sexuelle, il faut le défaire par la ruse, le déviriliser, le faire revenir à un statut de pré-mâle, alors que Jamal s'était trop rapidement octroyé le statut d'homme adulte. C'est rappeler à ce jeune homme qu'il n'est pas encore un homme, il n'est encore néanmoins qu'un éphèbe. Il y a diverses versions, vous disais-je, du récit. Le récit d'Ibn Manzour que l'on a lu est une expansion de motifs en présence dans les versions antérieures. À l'unique réaction de colère du jeune homme suite au vers d'Abou Nouas s'est substituée une répétition avec variation. La rage du jeune malandrin augmentant avec un second envoi de vers. C'est une répétition du motif assez commune. La composition qu'on a lue est la version la plus achevée, la plus équilibrée, à la fois par son épaisseur textuelle et par la leçon qu'elle dissimule dans la jouissance transgressive du texte. Voilà ce qui arrive aux jeunes gens qui enfreignent la loi de Dieu. Jamal n'a pas pu être obtenu. Jamal a refusé de se livrer dans l'échange ritualisé poésie-faveur sexuelle, qui est une parodie de l'échange que, dans le domaine de la cour, on observe entre le poète et le mécène. Échange rituel remplacé ici par poésie contre faveur sexuelle. Mais il sera vaincu par la ruse, qui là encore est une parodie, là, de la poésie guerrière, de Gloriol. Bien sûr, c'est un arrangement textuel qui ne va pas sans certains accrocs. Le roulem qui est décrit dans la dernière pièce, l'éphèbe décrit comme la dernière presse, avec ses plis du ventre, est bien plus efféminé qu'on imagine Jamal. C'est-à-dire que le compilateur n'a pas forcément saisi de la manière la plus efficace le poème d'Abou Nouas qui fonctionnait pour rendre l'anecdote crédible. Mais néanmoins, il y a là une leçon que nous devons tirer. Autre élément intéressant, c'est l'objet composite du désir d'Abou Nouas. C'est un charter, c'est un malandrin, et on connaît leur rôle dans les soulèvements bagdadiens et la guerre des deux frères entre El Amin et El Ma'moun. Et il est lui-même un prédateur sexuel. Mais autre face de la médaille, c'est également un raffiné en poésie. L'allusion au poème dans lequel il chante 50 garçons de la ville est à rapprocher d'un usage persan, celui du Shahrashoub, le catalogue poétique des aimées et des belles personnes d'une ville. Poème catalogue susceptible d'être composé éventuellement en l'honneur du sultan. On reconnaît dans ces catalogues de garçons le fait de passer en revue des corps de métier. Les commerçants, les étudiants en théologie, les apprentis des tisserands, les apprentis des bouchers, etc., qui sont le type social usuel de garçons courtisés par le personnage littéraire Abou Nouas dans les récits qui identifient fictivement des aimés de ses poèmes. Mais cette fois-ci, variation, c'est un prédateur même qui est désiré. Combinant les traits du malandrin et de l'être raffiné, Jamal est peut-être un reflet d'Abou Nouas lui-même. Voilà. Donc,